Radio Kapi.
Oh, Kapi. Blaise Shindani Kambala pour le journal.
Les présidents congolais et rwandais ont entériné hier jeudi à Washington DC l'accord de paix entre les deux pays. Félix Tshisekedi s'est engagé solennellement à mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui en découlent. Paul Kagame, pour sa part, estime que les dispositions de ces accords contiennent tout ce qu'il faut pour mettre fin à cette guerre qui n'a que trop duré. Dans la ville de Beni, environ 17 000 personnes, dont de nombreux ex-combattants, vont bénéficier d'une assistance à travers des activités génératrices de revenus grâce au projet Star Est, stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC. Plus de 60 organisations de la société civile congolaise rappellent l'urgence d'un dialogue intercongolais inclusif après l'enterrement de l'accord de paix de Washington. Elles estiment que sans ce dialogue, les accords de Doha et de Washington resteront lettres mortes. Pour en parler, nous recevons Jeff Pambi, membre d'une plateforme d'organisation de la société civile congolaise. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal du matin. Ça y est, les présidents congolais et rwandais ont entériné hier jeudi à Washington DC l'accord de paix conclu entre les deux pays le 27 juin dernier sous médiation américaine. Félix Tshisekedi s'est engagé solennellement à mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui en découlent. Le chef de l'État congolais a exprimé l'espoir que, avec le même sérieux, le Rwanda respectera pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris à Washington. Il a rappelé que sa main reste tendue pour, entre autres, une coopération apaisée fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la lutte commune contre des groupes armés. On écoute Félix-Antoine Tshisekedi dans ses propos recueillis par Alain Irung, envoyé spécial de Radio Kapi à Washington.
Pour ma part, je veux croire que ce jour marque le début d'un chemin nouveau. Un chemin exigeant, certainement difficile, mais un chemin où la paix n'est plus seulement un vœu, mais un cap. La République démocratique du Congo y prendra toute sa part, avec dignité, avec conscience et constance, et avec le soutien de ses partenaires. Nous demeurons vigilants, mais pas pessimistes, lucides, mais résolument optimistes. Que ces accords de Washington pour la paix et la prospérité soit pour nos peuples le symbole d'un engagement irréversible à tourner la page des confrontations et à ouvrir celle de la coopération et de la stabilité durable dans toute la région.
Pour sa part, le président rwandais Paul Kagame estime que les dispositions de ces accords contiennent tout ce qu'il faut pour mettre fin à ces conflits qui durent depuis près de 3 décennies. Selon lui, il revient désormais aux signataires de ces accords et aux dirigeants africains de les mettre en œuvre. On écoute Paul Kagame dans cet extrait proposé par Pauli Muzalia.
Ces accords prévoient tout ce qui est nécessaire pour mettre fin à ces conflits une fois pour toutes. Si cet accord échoue et que les choses ne se déroulent pas comme prévu, la responsabilité n'incombera pas au président Trump, mais à nous-mêmes. C'est à nous, en Afrique, qu'il appartient de travailler avec nos partenaires pour consolider et étendre cette paix. Il y aura des hauts et des bas sur la route qui nous attend. Cela ne fait aucun doute. Je sais que le Rwanda ne sera pas en reste. Je peux vous l'assurer. Notre seul objectif est et a toujours été d'assurer la sécurité de notre pays après avoir enduré tant de tragédies. Nous voulons désormais seulement aller de l'avant, confiant dans l'espoir d'un avenir prospère et stable.
Dans le même ordre d'idées, la MONUSCO salue l'enterrinement le 4 décembre à Washington DC de l'accord de paix et du cadre régional d'intégration économique par les présidents de la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous la facilitation des États-Unis d'Amérique. La mission rend hommage au président Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame pour la détermination politique dont ils ont fait preuve en faveur de la paix et de la coopération régionale. La MONUSCO considère que les accords conclus ouvrent ouvre une nouvelle fenêtre d'opportunité pour rétablir la confiance entre les deux pays, poser des bases plus solides pour une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo, alléger les souffrances des populations civiles et contribuer à libérer les potentiels économiques de l'ensemble de la région de Grands Lacs. Par ailleurs, les facilitatrices membres du panel des facilitateurs de la médiation de l'Union africaine, Sale Woko Zédé, ancienne présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, et Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine, poursuivent les consultations avec les communautés de l'Est de la RDC. Selon un communiqué parvenu ce jeudi à Radio Okapi, elles se sont entretenues virtuellement lundi avec les représentants des communautés des provinces du Nord et du Sud Kivu, ainsi que de l'Ituri, affectées par la crise qui secoue cette partie du pays depuis plus de 3 décennies. Le point avec Grace Amzati Masanzi.
Le communiqué indique que ces facilitatrices ont échangé avec les représentants des organisations féminines, de la société civile, de la jeunesse et du secteur privé, les représentants des notabilités et autorités coutumières, ainsi que la communauté humanitaire. Elles ont félicité les gouvernements du Togo et de la France pour l'organisation de la conférence des soutiens à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs, qui a permis la mobilisation des fonds en faveur des défis humanitaires, tout en espérant les déblocages des financements nouveaux. Dans leurs échanges, les deux facilitatrices ont souligné que leurs consultations s'inscrivent dans la droite ligne des résolutions 1325 et 2250 des Nations Unies, qui considèrent et consacrent la place de la femme et des jeunes dans les processus de paix. À travers ces consultations, les facilitatrices visent à s'assurer que les voix des communautés de l'Est soient pleinement intégrées dans les discussions sur la mise en œuvre des efforts de paix au niveau continental et international. Les échanges qui ont permis une mise à jour de l'état des lieux dans les zones affectées ont notamment souligné l'importance de l'appropriation locale des processus de paix en cours et des accords qui en résultent afin d'en mesurer l'impact sur les populations des provinces concernées.
Dans la ville de Beni, environ 17 000 personnes, dont de nombreux ex-combattants, vont bénéficier d'une assistance à travers des activités génératrices de revenus grâce au projet Star Est Stabilisation et Relèvement de l'Est de la RDC. Le lancement des activités a eu lieu ce jeudi 4 décembre 2025 dans la ville de Beni au Nord Kivu. Jean-Baptiste Kambalekiana, chef de programme des réseaux des médias pour le développement Remède, organisation choisie pour l'exécution de ce projet, explique son contenu au micro de Marc Marofimbo.
Ce projet s'inscrit dans la deuxième composante de la mission de stabilisation de la RDC qui consiste à la dotation des AGR. Concrètement, nous sommes au niveau de lancement. Ce lancement sera suivi par des consultations communautaires et ces consultations communautaires, il y aura une enquête qui va nous permettre d'identifier les organisations à base communautaire. Les bénéficiaires, comme vous avez suivi avec moi, 17 000 bénéficiaires, mais qui sont répartis à catégories. Les 30% de ces bénéficiaires qui sont des ex-combattants et d'autres parties sont destinées à des populations vulnérables et des groupes à besoins spécifiques. Ça peut être des victimes des violences basées sur les genres, ça peut être des peuples autochtones appelés communément pygmées et d'autres. Et donc, nous demandons à cette population de savoir que l'AGR n'est pas l'argent qu'il faudra utiliser pour les fêtes, pour manger. C'est l'argent qu'il faut fructifier, donc il faut travailler avec l'argent pour avoir des bénéfices à long terme.
Signalons que les bénéficiaires recevront chacun 400 dollars en 2 tranches. Ils suivront au préalable une formation au métier choisi avant de se lancer dans des activités génératrices de revenus. En Ituri, pendant ces temps, environ 40 000 demandeurs d'asile sud-soudanais sont en cours de relocalisation par la Commission nationale pour les réfugiés en Tendaro. L'opération qui a débuté en début de semaine vise à les éloigner de la ligne frontalière entre la RDC et le Soudan du Sud pour des raisons de sécurité et conformément aux conventions internationales. Partenaires de cette opération, les autorités locales, le HCR et l'ONG internationale Médecins sans frontières suisses. Le récit est signé Jean-Claude Lokidile.
Les premiers réfugiés venus du district sud-soudanais de Morobo ont commencé à franchir la frontière en avril 2025. Installés dans des zones dépourvues d'infrastructures, ils vivaient depuis dans des conditions humanitaires difficiles. Leur présence prolongée près de la frontière exposait également la région à des tensions communautaires et à des risques sécuritaires liés aux groupes armés actifs de l'autre côté de la frontière. Pour répondre à cette situation, la CNR, avec le concours des autorités locales, a choisi le site d'Adoumi dans la chefferie de Kakwa comme premier lieu d'accueil, un espace disposant d'écoles, de points d'eau potable et de structures sanitaires. Selon Karim Adidi, responsable de la CNR à Arou, ce déplacement permet non seulement de protéger les réfugiés, mais aussi de réduire la pression sur les communautés locales déjà très vulnérables. D'après des sources locales, les familles sont désormais vers des zones situées à une quarantaine de kilomètres d'Opépéni, où elles pourront s'installer dans un environnement plus sécurisé et mener une vie plus digne. Bounia, Jean-Claude Louki, Guilet, Radio Capi.
Restons dans la province. À Bounia, plusieurs coups de feu ont été entendus la nuit de mercredi à jeudi au quartier Bigo et à la bourgade de Koromojo dans la commune de Chari. Selon la police, il s'agissait d'hommes armés non identifiés qui ont volé la moto d'un taximen. La même nuit, des malfrats ont également cambriolé plusieurs maisons, dont celle d'un officier de la police nationale congolaise absent des lieux. Le commandant ville de la PNC indique que l'intervention des patrouilleurs qui ont riposté en tirant plusieurs coups de feu a permis de limiter les dégâts. Le colonel Abé Limwanga appelle la population à plus de vigilance en cette période de fin d'année et à alerter à temps les services de sécurité. Il est au micro de Martial Kizabiamongo.
Il est à signaler que pendant leur fuite, les bandits ont abandonné une batterie, une machette et une barre de mine. À noter que la situation sécuritaire dans les quartiers Bigo, en particulier, et celle de la commune de Chari en général, nécessite une attention particulière des autorités. Surtout avec la présence des deux sites de déplacés, de l'ISP et celle de Kigonzi, hébergeant plusieurs chômeurs et quelques fumeurs de chanvre. Voilà pourquoi le commissariat urbain Bounia demande à toute la population d'être vigilante, de collaborer avec les autorités, de collaborer avec les services de sécurité, de dénoncer les inciviques et ennemis de la paix et de se désolidariser de quelques groupes armés réfractaires au processus de démobilisation.
Revenons à Kinshasa où, dans son manifeste présenté ce jeudi devant les médias, le Front pour la 4e République propose plusieurs réformes structurantes pour l'avènement de cette nouvelle République au pays. Cette dynamique soutient l'universalité de la limitation des mandats électifs et la restructuration du pluralisme politique en RDC. Explication avec Blaise Ndongala Mayanda.
Les Front pour la 4e République constatent qu'après des décennies, plusieurs dispositions intangibles de la Constitution de 2006 n'ont pas produit des résultats escomptés. Selon cette dynamique, ces dispositions ont, au contraire, fragilisé la stabilité politique, compromis l'efficacité de l'État et freiné l'émergence d'une véritable démocratie des responsabilités. C'est ainsi qu'ils proposent notamment la suppression des gouvernements et des assemblées au niveau des provinces. Les porte-parole de cette plateforme plaident ainsi pour une gouvernance fondée sur la compétence, la probité et l'équité territoriale et non sur l'appartenance tribale ou ethnique. Francis Okito.
Nous plaidons également pour la suppression des gouvernements provinciaux. Pour le Front pour la 4e République, les chefs des divisions et les bourgmestres ainsi que les chefs de territoire, on les appelle les administrateurs de territoire, suffisent que d'avoir 10 ministres avec des commissaires généraux qui ne foutent pratiquement rien.
Le Front pour la 4e République souhaite en outre que la loi accorde la suppléance au deuxième candidat les mieux élus d'une circonscription électorale plutôt que de la confier, comme cela se fait actuellement, à un enfant, un parent ou un proche parent qui parfois n'a aucune vision de la circonscription qu'il apporte.
Restons dans la capitale à l'occasion de la journée internationale des personnes vivant avec handicap, célébrée chaque 3 décembre, une étude visant à soutenir les entrepreneurs agricoles en situation de handicap a été présentée ce mercredi à Kinshasa. Ce travail réalisé par le docteur Serge Mbaï, coordonnateur de la coopérative Bilanga Betou et son équipe portait sur les thèmes la coopérative Bilanga Betou et la promotion des handicaps
l'entrepreneuriat agricole durable pour l'inclusion et l'autonomisation des personnes vivantes avec un handicap à Kinshasa post-Covid, essai d'une recherche émancipatoire. L'objectif est de promouvoir les œuvres de ces personnes en situation d'handicap afin que les autorités apportent leur soutien. Josué Kefebe.
Lors de cet événement, ces entrepreneurs en situation d'handicap ont exposé divers produits agricoles tels que l'huile de palme, du riz, des légumes, de la semoule et d'autres articles. Ils ont également exprimé leur joie quant à cette initiative.
C'est une grande joie pour nous, hein, nous les personnes handicapées. Et c'est la première fois que les scientifiques essaient de faire une étude sur nous.
Ce sont des initiatives encouragées. Vous savez, nous sommes dans un pays où la question du handicap intéresse peu les scientifiques.
Le docteur Serge Mbaye a profité de cette occasion pour lancer un appel aux autorités, estimant que les avancées juridiques et administratives actuelles ne suffisent pas à soutenir efficacement ces entrepreneurs.
Ce sont des gens qui travaillent au quotidien. C'est du concret. Donc eux, ils font déjà leur part et ils ont besoin d'appui, d'assistance, d'accompagnement de l'État. Il y a des avancées juridiques, administratives, nous nous en réjouissons, mais il faut faire plus.
Selon Dr Serge Mbaye, cette étude a démontré en effet que les personnes vivant avec un handicap possèdent de nombreuses compétences. Elle révèle par ailleurs que 84,5% d'entre elles sont porteuses d'un handicap acquis aux origines diverses.
Actualité internationale.
Condamné en appel 12 ans de prison dans le cadre du méga procès pour complot contre la sûreté de l'État vendredi 28 novembre, l'opposant tunisien, aujourd'hui âgé de 82 ans, a été incarcéré ce jeudi 4 décembre. Il était l'une des dernières figures de l'opposition tunisienne encore en liberté provisoire. Lors du conseil des ministres qui s'est déroulé ce jeudi 4 décembre, le gouvernement burkinabé a décidé d'adopter un nouveau code pénal qui rétablit notamment la peine capitale pour certaines infractions graves comme la haute trahison, le terrorisme et les actes d'espionnage.
L'invité.
L'invité de la rédaction est Jeff Pambi, membre d'une plateforme d'organisation de la société civile congolaise. Alors que le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame viennent de signer un accord de paix et un cadre d'intégration économique régionale sous l'égide de Donald Trump, plus de 60 organisations de la société civile congolaise rappellent l'urgence d'un dialogue intercongolais inclusif. Jeff Pambi s'entretient avec Freddy Bikumbi.
Monsieur Jeff Pambi, bonjour.
Bonjour.
Par rapport à cette cérémonie de signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington, quelle est l'attente de la société civile congolaise?
Bon, l'attente de la société civile congolaise à l'heure actuelle est une et unique, c'est-à-dire que nous voulons la paix dans notre pays. Nous pensons que nos populations ont trop souffert de cette guerre, de cette insécurité généralisée sur toute l'étendue de la République et particulièrement à l'est de notre pays, et nous attendons à ce que toutes les batteries soient mises en marche pour que cette guerre cesse et que la paix durable et définitive, comme nous le disons, puisse être recouvrée. Nous encourageons toutes les initiatives qui sont prises, notamment les démarches officielles de nos gouvernants.
Et on peut lire dans cette déclaration la RDC sans dialogue national inclusif, les accords de Washington et de Doha ne mèneront pas à une paix durable. Mais aussi vous soulignez un fait, avec l'occupation de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu par des armées étrangères et en particulier l'installation d'administrations parallèles par l'AFC-M23 retarde la tenue du dialogue national inclusif, ce qui revient à consacrer la partition de fait de notre pays. À quoi vous voulez dire?
Vous vous rendrez compte que dans cette démarche de Doha comme de Washington, on singularise, je disais, le problème. On ne parle que de M23, AFC M23 et du gouvernement de la RDC, comme si le problème du Congo ne se limitait qu'à ça. Et puis on parle du Rwanda et de la RDC, alors que dans ce conflit qui est en fait un conflit complexe, il y a d'autres acteurs majeurs de ce conflit qui doivent nécessairement être pris en compte, dont notamment ce qui se passe en Ituri, où il y a l'Ouganda, par exemple, qui est un acteur clé dans la sous-région et qui occupe pratiquement notre pays dans la partie de l'Ituri. Et nous avons le Burundi aussi, qui joue un rôle clé dans ce conflit. Mais ces acteurs-là, sur le plan international ou sous-régional, ne sont pas pris en compte. Et au-delà de l'aspect régional ou international, il y a en interne d'autres éléments, comme par exemple d'autres groupes armés, sans pouvoir, loin de moi, l'idée de faire leur apologie, dans cette partie de la République, qui ne sont pas prises en compte. Et au-delà de groupes armés, il y a aussi la question politique et la question sociale, d'où, pour nous, nous pensons qu'il faut voir cet élément, cette crise, de manière globale. Et le seul cadre, à l'heure qu'il est, qui pourrait permettre aux Congolaises et aux Congolais, avec l'appui de nos amis au niveau régional ou provincial, le seul cadre, dirais-je, c'est un dialogue inclusif. Et ce dialogue, nous soulignons l'aspect inclusif parce qu'il ne doit exclure personne.
Croyez-vous à cette signature sincère du Rwanda ou de la RDC pour une paix dans la région des Grands Lacs?
À question directe, réponse directe, non. Et cette signature n'apportera rien, parce que je l'ai dit au début, et c'est qu'attend le peuple congolais, c'est la paix et une paix globale sur toute l'étendue de la République. Et le fait que Kinshasa parle avec un seul groupe, qui est l'AFC et l'AFC M23, et un seul acteur au niveau régional, donc un seul pays, le Rwanda, eh bien, ça risque de créer un autre problème et qui va être certainement beaucoup plus large si on ne l'adresse pas tout de suite. Donc, la signature de Washington, c'est bon pour la forme, ils le font, mais croyez-moi, c'est du temps perdu, c'est de l'énergie perdue, et c'est surtout beaucoup, beaucoup de moyens perdus quand on pense à combien de gens sont engagés dans cette démarche, qui se déplacent, et surtout des personnes inutiles qui n'apportent rien aux tractations, et donc tout ça, c'est du temps perdu. Il faudrait qu'on aille vite, et très vite à l'essentiel.
Jeff Bambi, merci.
Et c'est par ici que nous mettons un point final à notre grande édition du Journal du Matin. Merci de nous avoir suivis.